Bonjour Jonathan, bonjour à tous.
Qu'est-ce que vous avez sous les yeux? Ça ressemble plus à un tableau de statistiques qu'à des infos sur des films. Qu'est-ce que c'est ça? Vous nous faites un cours de mathématiques aujourd'hui.
D'une certaine façon, vous n'êtes pas sans savoir, mon cher Jonathan.
Bien sûr.
Que le cinéma traverse une période morose, pour le moins. Les spectateurs ont du mal à retrouver le chemin des salles obscures. Il faut bien dire qu'eux aussi ont le moral en berne. Un moral qui les amène à choisir des films légers. Enfin, léger, c'est une façon de parler. Oui. En fait, les spectateurs recherchent surtout des choses qui font rire, qui détendent. Celles qui occupent les premières places du box-office ont l'humour plutôt gras. Sur la première marche du podium, la famille Tuche, attendue, leur quatrième aventure a attiré 900 000 spectateurs en une semaine. Un résultat décevant, eh oui, si on le compare avec celui réalisé par le volume 3, qui voyait les mangeurs de frites de Bouzol rassembler 2 201 000 spectateurs pour sa première semaine d'exploitation. Le meilleur démarrage pour un film français en 2018. Un signe de désamour cinématographique ? Peut-être bien.
Alors, j'ai une question pour vous, Marie. Est-ce que c'est pas dû au fait que le film a été déprogrammé, reprogrammé 3 fois?
Très probablement.
Parce qu'il devait sortir l'année dernière pour Noël, et ça a été décalé à février, et puis ils l'ont redécalé à cette fin d'année.
Et oui, puisque les cinémas étaient fermés, la pandémie y est nécessairement pour quelque chose, et ses conséquences sur l'exploitation cinématographique, et puis les gens vont moins au cinéma, ont pris d'autres habitudes, et c'est regrettable. Il faut continuer à aller au cinéma.
Ça m'a donné envie de manger des frites. Un autre film peut-être dans la même catégorie d'humour un petit peu spécial.
Oui, de l'humour lourdingue, dites-le franchement. La surprise vient d'une autre famille, les Bodins, partis en vacances en Thaïlande. Après avoir détrôné Aline de Valérie Lemercier, leur billet d'avion encore à la main, Maria et Christian Bodin attirent toujours 155 000 entrées en une semaine. Depuis le 17 novembre, ils ont tout de même séduit 1 320 000 spectateurs, ce qui est une belle performance. Entre les Tuches premier et les Bodins quatrième, la deuxième place du box-office est occupée par Encanto, la fantastique famille Madrigal, le Disney de Noël logiquement placé, et West Side Story, relecture par Spielberg de la célèbre comédie musicale, se trouve quant à lui à une décevante troisième place. Seulement 180 000 spectateurs en une semaine. Plutôt que légères, les comédies sont familiales à tous les sens du terme.
Les chiffres, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on a à voir au cinéma dans ce sont ces films? C'est très mal fait. Vous prenez la phrase, vous la remettez en français et puis vous nous expliquez, Louis-Marie.
Oui, exactement. Ben, plutôt que s'occuper de chiffres, on va regarder des films. Hein,
c'est ça. Oui, parce que vous m'avez perturbé avec tous vos chiffres. Là, 1 million, 900 000, 3 millions, 4 volumes.
Je me doutais, je vous voyais avec votre calculette. Là.
C'est ça, effectivement.
En fait, votre règle à calcul, parce que vous êtes old school. C'est ça. Il est quand même de ces films qui conjuguent habilement tous les qualificatifs qu'on aime associer à comédie. D'où sa mère romantique, drôle, voire drôle de comédie. Jérôme Bonnel creuse doucement, mais sûrement son sillon, celui de l'exploration de l'inconstance amoureuse. Il fait partie de ces cinéastes dont on connaît le nom, mais dont on n'est pas sûr d'être capable de citer convenablement le titre d'une des réalisations. Pourtant, elles ont bel et bien laissé des traces, des souvenirs accrochés à une rencontre fortuite, une passion éphémère, des chassés-croisés amoureux ou le marivaudage, le dispute à l'espièglerie. Le ton est parfois plus grave, mais d'un coup peut se faire plus léger. C'est que Jérôme Bonnel s'est transformé la banalité du quotidien en moments enchantés. Dans Cher Léa, son dernier opus, Jérôme Bonnel surprend encore. Il s'agit toujours d'amour, mais cette fois-ci, c'est l'indécision qu'il met en scène. Cette indécision si masculine qui fait agir trop tard, beaucoup trop tard. Jérôme Bonnel.
Le film questionne à la fois la fragilité du masculin et aussi l'espèce d'insupportable indécision des hommes, qui a assez peu, enfin trop peu traité, je trouve, au cinéma. Et effectivement, c'est. Alors, vu d'ici, ça peut paraître très banal, parce que c'est un homme qui quitte sa femme trop tard et qui revient vers sa maîtresse trop tard. Donc c'est terrible, et en même temps, quand il s'en aperçoit, il est absolument déchiré, et il va apprendre à braver son désarroi, puis surtout à être un peu plus avec les autres, avec soi-même et avec les autres, quoi, au cours de cette journée.
Au petit matin, Jonas se réveille sur une banquette de bureau. Il a pas mal bu au cours de ce cocktail d'entreprise où il était invité. Dans le taxi censé le ramener chez lui, il change d'avis et décide de rendre visite à son ancienne petite amie, Léa, dont il est toujours amoureux. Malgré leur relation encore passionnelle, Léa le rejette. Perdu, Jonas ne part pas travailler, préférant se rendre au café d'en face pour lui écrire une lettre. « Que cherche-t-il, reconquérir Léa ou à l'inverse renoncer à elle? Jonas est à la dérive aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel. C'est cette indécision qui le pousse à s'installer en face pour écrire, bien sûr, mais aussi pour la surveiller, gardant toujours un œil sur la fenêtre ouverte de la salle de séjour. À manière du théâtre classique, sans pour autant s'écarter d'un regard cinématographique, Jérôme Bonnel centre l'action de Cher Léa dans une unité de temps et une quasi-unité de lieu. Ce café, donc, point d'observation idéal, dont le patron va devenir critique attentif de cette prose que Jonas veut étincelle, propre à rallumer le feu d'une passion en berne. Il intrigue cet homme qui tourne en rond, qui commande un dernier café allongé avant de partir pour finalement se réinstaller jusqu'à décider de prendre le plat du jour. Il est perdu, enlisé, embourbé. Jérôme Bonnel.
C'est un personnage qui est embourbé, hein, globalement, qui n'arrive plus à bouger, qui n'arrive plus à avancer et qui claironne sans cesse. En fait, ce café, il pense au départ qu'il va y rester 10 minutes puisqu'il vient y écrire une lettre d'amour pour cette femme qu'il veut récupérer, qui habite en face. Et ce qu'il croit qu'il va lui prendre 10 minutes va lui prendre la journée entière. Et ce café, cette façon d'être immobilisé, c'est une espèce d'allégorie de cet état, comme ça, quand on est à la fin d'une passion amoureuse, où l'addiction remplace l'amour, en fait. Il n'arrête pas de claironner, je vais partir. C'est une façon de dire, je vais quitter cette femme, il faut que je la quitte. Mais il le dit si fort, c'est ces moments où on parle trop fort, parce que ce n'est pas les autres qu'on veut convaincre, c'est soi-même. Parce qu'en fait, on pense exactement l'inverse. C'est une vieille histoire, ça, dans l'âme humaine.
Certes déterminé dans sa tâche, Jonas découvre la vie qui bouillonne autour de lui. C'est au contact de ce microcosme des acteurs de cette comédie humaine qui se joue autour de lui que Jonas va réussir à sortir de cet abîme où il s'est enfoncé. Jérôme Bonnel arrive à créer une tension, une forme de suspense à partir d'événements, de personnages, de ce décor du quotidien qu'est le café. Que va-t-il advenir de cet homme et de sa lettre objet des attentions admiratives du cafetier ? On ne saura rien du contenu de la missive ni de Léa, qu'on a bien vu un peu au début, mais dont on aperçoit seulement la silhouette. On est agacé parfois, mais surtout séduit par le hors-champ de cette comédie délicate. Et puis, il y a les interprètes parfaits d'équilibre et de profondeur. Les deux chaleureux Grégory, Montel et Gadebois, la fugace Anaïs de Moustier, l'impeccable Léa Drucker et l'épatante Nadège Bossondiagne. C'est la somme de ces petites choses, de ces moments suspendus qui fait le charme et la force de ce film, dont on est sûr maintenant de retenir le titre. Cher Léa.